Monsieur le directeur général, cher Pascal Lemaire, chers étudiants, mesdames, messieurs, je tiens à remercier les journées de l'économie et l'Association française de sciences économiques pour l'organisation de cette matinale de l'économie. Comme vous le savez, cet événement donne lieu chaque année à l'Assemblée nationale à un échange de points de vue entre économistes et députés et en présence d'étudiants. La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis d'accueillir cette matinale l'an passé. Et donc, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue et de pouvoir vous recevoir enfin à l'hôtel de la C, fût-ce dans un format un peu réduit. Mais comme chaque année, l'événement s'organise en deux temps. D'abord, avec la présidente du jury, Madame Anicot, que je salue, nous remettrons le prix du livre d'économie de la FSE aux auteurs. Et cette année encore, ce sont des ouvrages particulièrement stimulants qui ont été retenus. Ensuite, la table ronde permettra à trois députés et à trois économistes d'échanger sur le thème retenu cette année, les territoires durables face aux défis de la localisation. Vaste sujet sur lequel les étudiants pourront évidemment interroger les intervenants. Je salue les universitaires qui participent à cet événement et qui ont contribué à son organisation. Madame Catherine Beaumont, Madame Louafi Bouzouina et Madame Levrato, ainsi que trois députés élus dans des territoires très divers, Catherine Fabre, Dominique Potier et Gilles Carrez. Le thème retenu pour cette matinale nous conduit à nous interroger sur les relations entre économie et environnement, économie et territoire, territoire et environnement. Il incite à un certain nombre de réflexions fondamentales, dont d'ailleurs la crise sanitaire a modifié l'appréhension. Il nous sera intéressant de voir précisément dans quelle proportion et dans quelle dimension. J'ai lu avec intérêt le texte de Louafi Bouzouina, « La revanche de l'accessibilité sur la mobilité en temps de crise », rédigé en prévision de cette matinale. La crise sanitaire nous a en effet imposé une immobilité prolongée dans un contexte contemporain où le paradigme de la mobilité est dominant. Vous citez la théorie des trois âges de la ville, qui illustre les mutations associées au progrès technique dans les transports ainsi qu'aux gains de vitesse et d'espace. Historiquement, les villes de la modernité ont été légitimées parce qu'elles offraient de liberté et d'opportunité, un peu comme en témoignent les tableaux parisiens de Baudelaire. Georg Simmel a analysé la disparition de la société locale dans les villes modernes, la mobilité grandissante réduit la corrélation entre proximité spatiale et intensité relationnelle. Et c'est sans doute là un euphémisme. À rebours de cette tendance structurelle, la crise sanitaire a permis de retrouver le sens du lien social et de l'ancrage économique territorial via la consommation locale, les circuits courts, le rapprochement des lieux de production, de résidence et de consommation. Le télétravail a également modifié le rapport au territoire, même si sa pratique a été hétérogène selon les domaines d'activité et les catégories socio-professionnelles. Le monde ouvrier n'y a quasiment pas eu recours quand les cadres le pratiquaient quasi exclusivement lors du premier confinement. L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail illustre également la volonté des partenaires sociaux d'accompagner cette évolution qui pourrait avoir des conséquences significatives sur le rapport au travail, à la mobilité, à l'organisation et même à l'attractivité du territoire. À cet égard, si je puis apporter un modeste témoignage personnel, je remarque que la tension sur le marché de l'immobilier dans mon Finistère intérieur, Finistère rural, pas le Finistère côtier, réputé à tort d'ailleurs, le moins attractif, mais territoire que je sillonne régulièrement, eh bien cette tension sur le marché immobilier coïncide avec le déploiement de la fibre optique également. Et donc le plan France Très Haut Débit qui vise à généraliser la fibre optique sur l'ensemble du territoire d'ici 2025 représente un facteur majeur de structuration des territoires. Il s'agit bien d'une revanche, finalement, de l'accessibilité sur la mobilité, pour reprendre vos termes. Ainsi, la technologie peut contribuer au rééquilibrage du développement économique des territoires, ainsi qu'à la réduction des déplacements qui pèsent évidemment sur l'environnement. Cette évolution pourrait donner lieu à une nouvelle géographie des marchés immobiliers et de la résidence principale, comme le relève Catherine Beaumont. Nadine Levrato a enfin analysé la difficile équation des collectivités locales entre autonomie d'action et recentralisation fiscale. Je constate d'ailleurs que la dotation globale de fonctionnement, dite DGF, est stable depuis le début du quinquennat, garantissant la visibilité de ressources des collectivités territoriales. L'affectation d'une fraction de la TVA aux régions a été très appréciée par les collectivités concernées, évidemment compte tenu de la dynamique des recettes. Le plan de relance est territorialisé et consacre 5,2 milliards d'euros aux collectivités territoriales, dont 1 milliard au titre de la dotation exceptionnelle de soutien à l'investissement local, appelée DSIL. À l'évidence, dans le moment, les ressources des collectivités territoriales ne sont pas amputées, bien au contraire. Il n'est pas d'usage, et il y a quelque chose de cuistre, à se citer soi-même. C'est pourquoi je me permets de solliciter votre indulgence. Mais néanmoins, dans l'ouvrage que j'ai publié l'an dernier, « Nos lieux communs », 2 jours avant le confinement total, ce fut une idée commerciale particulièrement réussie, je notais néanmoins que notre décentralisation se trouve tout compte fait à mi-chemin. Les collectivités exercent des compétences par beau temps, et en cas de tempête, c'est à l'État de se substituer. Et elles sont compétentes, ces collectivités. Je suis moi-même conseiller régional, j'ai été conseiller général, disait-on à l'époque. Elles sont compétentes, mais on peut le dire, jamais responsables. Et cette situation n'est satisfaisante ni pour l'État, ni pour les collectivités, et encore moins pour la décentralisation. Et donc, partant de ce constat, je plaidais pour un État, certes fort, dont l'action serait identifiée, mais aussi pour des collectivités pleinement libres, ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Ainsi, je proposais, et donc je réitère cette proposition devant vous, que la péréquation financière soit codécidée avec les territoires, en attribuant une enveloppe de DGF à chaque territoire régional, à charge pour le conseil régional et les conseils départementaux de s'accorder sur une juste répartition en transparence et en confiance au cours d'une conférence régionale. Et le même processus s'appliquerait au niveau intercommunal. Et je ne doute pas que cette nouvelle répartition, décidée par ceux qui en seraient les premiers utilisateurs ou les premiers bénéficiaires, eh bien, permettrait de ne pas systématiquement entendre le silence des élus locaux satisfaits et l'éloquence des élus locaux déçus, puisque précisément ils décideraient de plus de justice dont l'État ne serait parfois à leurs yeux pas toujours garant. Et je suggérais aussi de laisser les collectivités choisir ensemble les compétences qu'elles doivent exercer en laissant les plus grandes marges de manœuvre aux conférences territoriales de l'action publique, puisqu'on peut imaginer, et ce serait une vraie différenciation, mais portée par l'initiative locale, que toutes les régions ou tous les départements ne se saisissent pas de manière uniforme de toutes les préoccupations de nos concitoyens. Et au fond, la généralisation du principe d'expérimentation me paraissait également souhaitable, en appliquant évidemment son corollaire, à savoir des évaluations objectives et partagées. Alors ces débats, je ne vais pas les mener d'ici tout seul, ça n'aurait pas grand intérêt, mais je sais à quel point ces débats sont passionnants, et je ne doute pas que la matinale de l'économie permettra de confronter utilement les points de vue et surtout guider les évolutions absolument nécessaires, nous le sentons tous de manière diffuse, de réorganisation et de clarification de l'action publique pour que aussi notre démocratie y gagne, afin que nos compatriotes puissent savoir réellement qui fait quoi, qui est responsable de quoi, pourquoi on vote ou on ne vote pas, et puis surtout à quoi bon aller voter si on ne comprend pas qui fait quoi. Et nous, je redoute que nous ayons un exemple dans les semaines qui viennent, où au fond, beaucoup de compatriotes se demandent quel est le sens, quelle est la compétence, ou quels sont les rôles que doivent jouer les élus qu'ils s'apprêtent à choisir. Voilà, mesdames et messieurs, ma modeste contribution que je voulais apporter à votre réflexion, en vous souhaitant surtout la bienvenue ici à l'Hôtel de la C, et en vous souhaitant de fructueux débats. Merci de votre attention et surtout de votre présence.
Je vais retirer ça, ça vous dérange. Pardon.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous remercie de nous accueillir. Vous commenciez par évoquer votre ancrage sur le Finistère. Ça me faisait particulièrement plaisir, puisque j'étais un voisin des Côtes d'Armor, où là aussi la notion de territoire, depuis très longtemps, a une importance considérable. C'est peut-être une sensibilité qu'on pourrait partager sur ces territoires. C'est la 7e édition de cette matinale de l'économie. J'avais lancé cette initiative en 2013 avec l'idée qu'on pouvait avoir un dialogue beaucoup plus intense, me semble-t-il, entre les chercheurs, les experts et les parlementaires qui traitent de sujets souvent qui sont assez semblables, mais avec des angles évidemment différents et des rôles différents. Je crois qu'on a beaucoup progressé déjà depuis 2013. J'ai trouvé que les débats au fil des années nous amenaient à une meilleure compréhension et je souhaite qu'on puisse continuer dans cette voie-là. Et il me semble en plus que cette année, le sujet que nous avons choisi, les territoires durables au défi de la localisation, se prête particulièrement bien à cette discussion parce qu'il y a de plus en plus de travaux de chercheurs avec des bases de données de plus en plus utilisables qui permettent de produire des résultats. Et de l'autre côté, je crois, des citoyens qui sont de plus en plus en attente de ce que l'on est capable de leur apporter. Donc je crois que ce dialogue devrait particulièrement bien fonctionner. Avant d'ouvrir cette table ronde, on sait qu'on aura une première partie qui est aussi particulièrement importante pour nous, celle de la remise du prix du livre d'économie. Alors je vous rappelle que c'est le prix du livre d'économie à destination des étudiants. C'est la dénomination officielle que l'on avait adoptée. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, il y a une mission des universitaires qui n'est peut-être pas si évidente que cela a rappelé aussi, qui est celle de la diffusion des savoirs. Et ce n'est pas forcément très valorisé dans le parcours académique, mais j'y tiens moi particulièrement. Le fait que les universitaires contribuent en publiant des manuels, des essais, des formats poche, à rendre plus accessibles les savoirs qu'ils construisent. Deuxièmement aussi, à montrer que ces savoirs ne sont pas simplement un moyen d'évaluation pour passer des examens, mais que c'est aussi un outil pour une meilleure compréhension du monde. Donc, je trouve qu'il faut valoriser particulièrement ces universitaires, ces experts qui font l'effort de produire des ouvrages que moi, je trouve particulièrement intéressants. Et alors, cette année, la richesse est, je trouve, impressionnante. Je ne sais pas si le confinement a favorisé le temps de réflexion et de synthèse chez nos collègues, mais on avait des ouvrages vraiment de très, très grande qualité et, de manière aussi assez amusante, les territoires traversent très largement les ouvrages que nous allons aujourd'hui primer avec ce prix du livre de l'AFSE. Enfin, dernier point, je voulais dire que je suis très content que les étudiants se soient impliqués. On a un panel d'étudiants qui est là et qui va réagir en particulier à la table ronde. Ce sont les étudiants de l'Université de Bourgogne et puis ceux qui maintenant développent des sites comme Easynomics ou Partageons l'écho. Je trouve que cette initiative est formidable parce qu'en fait, les étudiants organisent des réseaux qui vont certainement peser dans la manière dont ils pourront conduire à la fois leur formation et leur carrière derrière. Et puis nous, ça va certainement nous permettre de renforcer le lien auquel je tiens particulièrement entre les universitaires et les étudiants. Dernier point, ce n'est qu'un début pour l'année 2021, parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne se voit pas. Et donc j'espère bien vous retrouver les 3, 4, 5 novembre à Lyon pour les journées de l'économie, avec un thème qui pourrait quand même créer un peu d'enthousiasme, qui est « Partageons les utopies ». Je crois qu'en effet, on peut les partager pour obtenir ici finalement peut-être des solutions à partir de nos réflexions. À bientôt, et je donne la parole à Annie Cotte pour le prix du livre d'économie.